Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Si vous êtes propriétaire d'un logement, d'un loyer, et que vous louez ce loyer, vous attendez quelque chose de vos locataires. Enfin, normalement. Vous attendez d'eux qui payent leur loyer, ça c'est une chose, puisque les logements ne sont pas gratuits. Puis la deuxième chose, c'est que vous demandez à vos locataires qu'ils respectent le contrat de location, puisque le contrat, c'est ce qui lie les locataires ou le locataire au propriétaire et que la rupture d'une clause du contrat est égale à la rupture de la location. Si le locataire ou les locataires ne viennent pas à respecter soit le paiement régulier de leur loyer ou le contrat, les locataires peuvent connaître certains soucis allant du rappel de leur loyer. Voilà, j'ai déjà eu, il m'est arrivé, et souvent ça se passe pendant les vacances d'été, où nous avons eu un petit retard de paiement parce qu'on était en vacances et que nous avons reçu une lettre de la société de location qui nous demandait « Vous nous avez toujours pas payé, vous avez 10 jours pour payer, sinon nous... » C'est pas tout de suite les huissiers de justice, mais c'est mise en demeure de paiement. Et ça peut aller jusqu'à l'expulsion si nous ne respectons pas les clauses du contrat. Le texte que je vous propose aujourd'hui est un petit peu similaire à la location. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33 jusqu'à 46, nous relate ceci. Jésus raconte une parabole. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il alloua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera exécuter sans pitié ces misérables. » Puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice? C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur de la réaction de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Il y a quelque temps, nous avons vu le psaume 118, d'où est tiré la réponse de Jésus, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Nous avons vu que c'était un itinéraire de celui qui veut remercier Dieu parce qu'il l'a délivré en allant au temple et en faisant un sacrifice. La parabole de Jésus ici se situe vers la fin du ministère terrestre de Jésus. Au chapitre 21, Jésus est entré à Jérusalem avec les acclamations de la foule, qui ont cité aussi un verset du psaume 118, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et au chapitre 21, verset 23, on voit que Jésus se rend au temple. On avait dit que le psaume 118, le contexte était dans le temple, et là Jésus est dans le temple et il raconte cette parabole des mauvais vignerons. Un petit peu avant aussi, il avait purifié le temple en chassant les vendeurs du temple qui marchandaient dans le temple pour que les fidèles puissent acheter de quoi faire le sacrifice. Et les chefs religieux, juste avant notre texte, veulent savoir finalement d'où vient l'autorité de Jésus. Est-ce que c'est une autorité qui vient de Dieu? Est-ce que c'est une autorité qui vient des hommes? Et ils posent directement la question à Jésus. Jésus va leur pas du tout leur répondre et va leur raconter différentes paraboles. Et le texte que je vous ai proposé à la lecture, c'est un texte qui n'est pas facile à entendre, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. C'est vrai que c'est un texte entre les vignerons qui tuent les serviteurs, le fils du propriétaire, et qu'à la fin, ceux-là sont, ma traduction parle exterminés, c'est pas vraiment un texte qui est joyeux. Et certaines choses que je vais dire pourraient peut-être même vous choquer. C'est vrai que l'histoire de cette parabole est une histoire toute simple, qui n'est pas facile à entendre, parce que finalement, le thème central de la parabole, quand je lis, c'est plutôt le jugement. On parle aussi de la patience de Dieu. Mais voilà, ça tourne un petit peu à cette notion de jugement. La parabole de Jésus est une parabole, vous l'avez bien vu, qui se passe dans une vigne. Je ne sais pas si la Bretagne est une terre de vignes. J'ai cru comprendre que dans la région de Saint-Malo, il y avait quelques vignes. Mais voilà, la vigne n'est pas vraiment... Je ne sais pas si on aurait pu remplacer vigne par des champs d'artichauts. Mais voilà, ça se passe dans une vigne, et cette image de la vigne n'est pas une image nouvelle. Jésus reprend en fait un autre texte que vous pouvez lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 et le verset 1-7 qui nous raconte que Ésaïe raconte qu'il y avait un ami qui avait une vigne qu'il avait entourée d'une haie avec une tour, etc. et que finalement, le propriétaire de cette vigne détruit la vigne parce que ceux à qui il avait confié la vigne ne sont pas fidèles. Et Jésus reprend à son compte l'histoire de la vigne. Mais revenons à notre parabole. C'est une parabole, et je vais tout de suite un petit peu à l'interprétation, qui nous montre la patience de Dieu, la grâce de Dieu. À trois reprises, il envoie des personnes pour récolter les fruits. Mais on voit que cette patience et cette grâce a une certaine limite dans le temps. Au bout de la troisième fois, finalement, le propriétaire de la vigne, j'ai envie de dire, a perdu patience et a perdu, sa grâce. Un propriétaire, la parabole nous raconte l'histoire d'un propriétaire, Dieu, qui avait loué sa vigne à des vignerons. Et dans les vignerons, on voit des responsables religieux. Jésus s'adresse ici en particulier à des pharisiens, qui étaient des responsables religieux de l'époque et qui avaient la charge de la vigne du peuple d'Israël. On voit la grâce de Dieu également. Le propriétaire ne demande pas au vigneron de planter la vigne, de l'entretenir, de mettre haie. Dieu propose au vigneron, j'ai envie de dire, une location meublée. Tout est prévu dans cette vigne. La vigne est déjà plantée, et quelque part une grosse partie du travail est déjà fait. Il y a déjà une haie qui est construite autour de la haie, une tour qui est construite pour protéger la vigne des, j'ai envie de dire, des invasions, mais des personnes qui voudraient piller la vigne. Le propriétaire a déjà mis en place un pressoir. La vigne, c'est pour faire du vin, et le pressoir est déjà là pour que les vignerons, finalement, n'aient qu'à récolter la vigne et, j'ai envie de dire, de préparer le jus qui servira à la fabrication du vin. Et finalement, j'ai envie de dire que le rôle des vignerons est simplement de s'occuper de la récolte. Le temps de la récolte étant arrivé, le propriétaire veut récupérer les fruits de sa récolte. C'est normal, c'est sa vigne. Il a loué sa vigne à des vignerons et en tant que propriétaire, il veut récupérer ce pourquoi il a planté la vigne, à savoir les fruits, le jus de raisin pour en faire du vin très probablement. Le propriétaire envoie une première fois des serviteurs pour récupérer les fruits. Mais on voit que les serviteurs ne sont pas bien accueillis. Et on voit qu'il y a une gradation dans la façon dont sont accueillis les serviteurs. Ça va du simple rouage de coups jusqu'au meurtre. Dans sa patience, j'ai envie de dire dans sa grâce, le propriétaire envoie une nouvelle fois des serviteurs un petit peu plus en grand nombre, et ceux-là se font également bien accueillir, les bras grands ouverts, mais plutôt les bras grands ouverts pour se faire massacrer. Tous ces serviteurs, finalement, représentent tous ceux qui sont venus avant Christ, avant le Christ, les prophètes, et dire finalement aux responsables religieux et au peuple ce que finalement Dieu attendait d'eux, l'obéissance. Mais on voit que les vignerons n'ont pas du tout accepté ces rappels à l'ordre. Et enfin, encore dans sa grande patience, dans sa grande grâce, le propriétaire de la vigne envoie son fils en se disant, si j'envoie mon fils, ils respecteront très probablement mon fils. Et on voit que le fils est également bien accueilli. Il se fait tuer non plus dans la vigne, mais complètement à l'extérieur de la vigne. Et ça nous renvoie également à Jésus-Christ qui a été tué, mis à mort à l'extérieur de la vigne. On peut se poser la question, mais pourquoi les vignerons ne veulent pas recevoir les deux groupes de serviteurs et le fils? La réponse pourrait se trouver dans le verset 38. Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. Ce verset un peu nous éclaire un petit peu sur la mentalité des vignerons. Les vignerons, finalement, pensent être les propriétaires de la vigne. Ils veulent récupérer finalement l'héritage, les fruits de la récolte pour eux. Ils pensent être les propriétaires de la vigne. En oubliant totalement l'existence et le droit du véritable propriétaire de la vigne. Ils en oublient même le pourquoi ils sont vignerons et pourquoi ils sont dans cette vigne. Récolter le fruit de la vigne, non pas pour eux, mais pour le propriétaire. Et c'est une attitude qui ne correspond pas du tout à ce qui leur avait été demandé. Ils ne font pas le travail qu'il leur est demandé. Les fruits ne semblent pas être récoltés. À plusieurs reprises, on voit une première fois les serviteurs sont venus pour demander les fruits. Ils sont tués. Une deuxième fois, très probablement qu'ils n'ont pas récolté les fruits. Ils y arrivent même à devenir criminels. en pensant qu'ils sont propriétaires de cette vigne. Et même, j'ai envie de dire, ils se considèrent comme supérieurs aux propriétaires. À Jésus de poser une question sur le comportement des vignerons. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Et j'ai envie de dire, ce qui est choquant dans cette histoire, et moi ce qui me choque, c'est pas les serviteurs qui se font tuer, le fils qui se font tuer, mais c'est la patience du propriétaire de la vigne. Il a attendu 3 fois avant d'intervenir. Alors que si j'étais le propriétaire de cette vigne-là et que les vignerons que j'avais embauchés ne font pas le travail que je leur demande, je les aurais très probablement virés ou congédiés ou j'aurais pas attendu plusieurs temps. Il aura fallu finalement plusieurs morts et la mort du fils du propriétaire pour que celui-ci intervienne. Et je trouve ça quand même, si je me reste simplement à cette histoire-là, je trouve cela choquant de la part du propriétaire de la vigne. Et la mort du fils finalement équivaut à la fin de la patience du propriétaire et le jugement du propriétaire envers ses vignerons. Oui, c'est une parabole qui nous parle du Christ, Pierre rejeté. La parabole n'est pas compliquée à comprendre, elle nous parle de Dieu qui désire que son peuple, donc ici le peuple juif, puisse marcher dans ses voies, dans l'obéissance. L'obéissance qui est symbolisée par les fruits. Mais ceux qui ont la charge du peuple, qui ont la charge justement de guider le peuple sur le chemin de l'obéissance, ne marchent pas eux-mêmes dans l'obéissance. Mais dans sa grâce, sa patience, Dieu a envoyé à plusieurs reprises des prophètes, des personnes envoyées par Dieu pour amener le peuple et les responsables du peuple vers le chemin que Dieu a dressé pour eux, à savoir un chemin tout simple, dont la seule exigence, finalement, est l'obéissance. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu disait au peuple, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et pas simplement aussi un chemin d'obéissance, mais le rôle, il ne faut pas oublier ça, que le rôle du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était d'être un témoin pour les autres nations, un témoin de ce Dieu, le Dieu véritable. Et en ultime recours, Dieu envoie son propre Fils, Jésus-Christ, mais lui-même sera rejeté également par son propre peuple, par les siens, en devenant cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Et la patience de Dieu a des limites. Comme le peuple refuse l'obéissance, refuse simplement de croire et d'accepter les paroles de ses envoyés, la sentence est prononcée. Et ce qui est très intéressant, dans notre parabole, ce sont les pharisiens eux-mêmes qui prononcent la sentence et qui, quelque part, prononcent leur propre sentence. Quelle est cette sentence? C'est le verset 41. C'est misérable, il les fera disparaître misérablement, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur temps. C'est le jugement, la disparition des méchants, des mauvais vignerons. Et finalement, que la gestion de la vigne sera donnée à d'autres nations, à un autre peuple, qui eux seront plus obéissants que les premiers vignerons. Et nous savons que le peuple à qui le Seigneur donnera la vigne seront bien sûr les païens, tous ceux qui ne sont pas au début membres de du peuple juif, mais qui deviendront le peuple du Seigneur. Jésus a parlé un petit peu du rejet par le peuple de ses prophètes, juste un petit peu après, avec des termes très émouvants. Je peux lire ça dans Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. À chaque fois que je lis, je trouve ça émouvant la façon dont Jésus, on voit le cœur de Jésus qui est triste et en même temps qui est sévère. Matthieu chapitre 23, verset 37. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tue à coups de pierre ce que Dieu t'envoie. » Et on voit l'amour de Dieu pour son peuple. « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare, désormais, vous ne me verrez plus juste pour ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. » Encore une citation de ce psaume 118. Et on voit un contraste entre l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui peut être triomphante, où le peuple disait « Béni soit celui qui vient du Seigneur ». Finalement, ce peuple qui rejette le Fils. Et Jésus qui me dit « Mais je ne reviendrai que quand le peuple dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais c'est une parabole qui est aussi pour nous. Certes, les premiers bénéficiaires de cette parabole sont bien sûr les pharisiens, j'ai envie de mettre des gros guillemets, les méchants pharisiens, ceux à qui nous ne voulons pas ressembler, que Jésus n'avait pas en très haute estime, hein. Jésus n'aimait pas trop les pharisiens, parce que Jésus les considérait comme hypocrites. Ils se réfugiaient derrière leur religion, leur tradition, j'ai envie de dire leur religiosité, leur loi, mais ils ne portaient aucun fruit de l'obéissance en Dieu. Et Dieu finalement les condamne parce qu'ils n'ont pas récolté les fruits et qu'ils ne portent même pas les fruits. Mais cette parabole, j'ai envie de dire, est aussi pour nous. Et parfois, et j'ai envie de dire moi le premier, nous pouvons nous comporter comme ces méchants pharisiens, de nous cacher derrière un voile religieux ou de pratiques religieuses ou de foi et de ne pas avoir les fruits de l'obéissance. La pierre principale rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et à chaque fois que je lis ce texte-là, je me pose, enfin ce texte de cette parabole des vignerons, je me pose à chaque fois ces mêmes questions. Christ est-il le fondement de ma vie? Christ fait-il une différence dans ma vie? Christ est-il réellement le propriétaire de ma vie? Et dans ce cas, si ma vie est fondée sur le Christ, est-ce qu'elle porte les fruits nécessaires, les fruits de l'obéissance à Christ et à sa parole? À propos de fruits, Jésus nous dit que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Vous pouvez lire ça en Matthieu chapitre 7. Et versets 15 à 20, je vais revenir un petit peu sur cette lecture-là. Si un arbre se reconnaît à son fruit, un chrétien se reconnaît également à son fruit. Dans la prière de Robert, j'ai écouté la prière de Robert, il avait demandé que le Seigneur, enfin, je paraphrase un petit peu, mais voilà, que le Seigneur nous donne la foi, l'espérance et l'amour un petit peu dans ces termes-là, qui sont déjà des fruits de chrétiens. Mais un autre véritable fruit, c'est le fruit de l'obéissance. Un chrétien dont Christ et l'Évangile sont véritablement le centre, de la vie, le fondement de la vie, porte du fruit. Mais Jésus nous dit aussi que tout arbre qui ne porte pas de fruit est coupé. Dans le texte d'Ésaïe, que je vous ai simplement donné en référence, la vigne ne porte pas de fruit et la vigne est détruite. Tout arbre qui ne porte pas de fruit est coupé et mis au feu. Jean 15 nous parle « Je suis le sel, vous êtes les sarments ». Et au tout début de Jean 15, verset 1-2, Jésus nous dit ceci « C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Ce sont des paroles difficiles à entendre. La pierre angulaire, finalement, peut devenir une pierre qui brise. Une pierre qui fait tomber, qui écrase et qui devient notre propre jugement si elle n'est pas le fondement de notre vie. Venir à l'église, j'en dire être dans la vigne, j'en dire n'est pas un gage du salut, mais notre foi en lui, notre foi en Christ, et notre obéissance, et je ne veux surtout pas prêcher du salut par les œuvres. Parce que l'obéissance, finalement, découle de notre foi, et nous sommes simplement sauvés par la foi seule. Les pharisiens se cachaient derrière un rideau de religiosité, même si, on dirait, ils étaient sincères. Si Christ est notre pierre principale, nous devons vivre en conformité avec cette pierre. J'aurais du mal à concevoir un bâtiment où il y aurait une pierre principale et que tout le bâtiment ne soit pas du tout construit sur cette pierre principale. Enfin, je ne sais pas déjà si ça tiendrait. Ou imaginez les cathédrales où il n'y aurait pas de clé de voûte. Ça ne tiendrait pas. Ça s'écroulerait. On m'a toujours dit que dans les cathédrales, enfin la clé de voûte, on vous enlevait cette pierre-là et toute la cathédrale s'écroule. Si Christ est notre pierre principale, nous devons vivre en conformité avec cette pierre-là. Notre façon de vivre, finalement, doit refléter notre foi. Et nous devons porter du fruit. Alors, sommes-nous de fidèles locataires, comme je disais dans l'introduction, ou sommes-nous de fidèles vignerons? Et j'aimerais revenir sur un autre texte en guise de conclusion. Matthieu 7, les versets 13 à 27, où Jésus nous montre finalement qu'il n'y a pas de demi-mesure, qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. J'ai envie de dire, nous ne pouvons pas être des croyants non obéissants. On entend souvent dans la rue, je suis croyant non pratiquant, et bien entendu, je suis non croyant pratiquant. Et voilà, on ne peut pas être non croyant, enfin croyant non obéissant. Alors, j'ai envie de dire, nous ne pouvons pas faire le jeu de la comédie, parce que c'est Jésus lui-même qui nous invite à, j'ai envie de dire, à vivre une certaine radicalité dans notre foi. Jésus, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 27, un texte que nous connaissons, qui nous parle justement de porter du fruit et de marcher dans l'obéissance. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent et se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Jésus leur déclarerait alors, « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus vise des personnes qui font ce que des chrétiens pourraient faire. Prophétiser, guérir des malades, faire des miracles, etc. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, celui qui écoute la parole du Seigneur et qui obéit, qui l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé, avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc, la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Oui, je crois que nous sommes sauvés par la foi seule. Mais cette foi doit se manifester par des fruits de l'obéissance à Christ et à sa parole. Oui, je crois que Dieu est un Dieu plein de grâce, loin à la colère, et que nous n'avons pas suffisamment compris, et moi-même compris, toute l'importance de la grâce de Dieu. Mais ne transformons pas cette grâce en grâce à bon marché. Je crois que c'est Bonhoeffer qui parlait ça, de la grâce à bon marché. La grâce de Dieu doit se manifester, j'allais dire concrètement, dans nos vies. Vivons pleinement, vivons radicalement, mais au sens positif du terme radical, hein, pas le sens négatif ou tous ceux, voilà, les religions radicales, plus au sens positif. Vivons pleinement la vie que Christ nous demande de vivre. Et ne cherchons pas à discuter ce qui est bon pour nous ou pas. Dieu nous a donné une location meublée. Rien ne nous manque. Tout ce que Dieu a prévu pour nous est bon pour nous. Soyons de fidèles locataires, excusez-moi l'expression, et pas des squatteurs. Et je vous invite à peut-être de relire tout ce texte de Matthieu 7 que je vous ai lu et de vous poser la question, où suis-je ? Est-ce que je suis un arbre qui porte du fruit ou un arbre qui ne porte pas de fruit ? Est-ce que ma vie est fondée sur cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ, solide, et que finalement toute la maison reflète que la maison est fondée sur la pierre angulaire, ou bien sommes-nous l'autre maison, une maison qui n'est pas bâtie sur une pierre principale, un fondement, et qui reflète, qui n'est pas bâtie sur le fondement. Je vous invite vraiment à relire ce texte-là et à vous poser cette question-là. Je vous invite à la prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Pardon quand nous oublions que c'est toi qui es le propriétaire de la vigne et que nous voulons faire ce que bon nous semble. Que ta parole travaille dans nos cœurs, afin que nous mettions nos vies en conformité avec ta parole, avec ce que tu nous enseignes, afin que nous portions du fruit. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce que tu nous fais jour après jour, Seigneur. Mais que ta grâce, Seigneur, ne devienne pas un prétexte pour nous, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen.